Bonjour à tous et bienvenue dans Splash & Go, l'émission de la rédaction d'US Racing pour vous parler de tout ce qui s'est passé à Bristol ce week-end. Et on présentera bien évidemment Atlanta qui arrive à grands pas puisque ça y est, la NASCAR a repris depuis très longtemps. Pour parler de ce programme, Aloïs, salut Aloïs.
Salut Geoffroy et bonjour à tout le monde.
Et Lilian, salut Lilian.
Salut Geoffroy, bonjour à tous.
Alors, messieurs, Bristol, c'était attendu, c'était la première course sur short track de la saison après combien ? Après 8 courses déjà disputées. Donc, c'était attendu parce que les short tracks, c'est toujours une atmosphère un petit peu particulière, un public toujours endiablé, qui rajoute un petit peu de sel à ces courses. Et bah finalement, cette année, Bristol, c'était à huis clos, mais on n'a pas pour autant été déçus, malgré, Aloïs, une tonne de PJ1 qui a eu du mal à fonctionner en tout début de course.
Ah, déjà, pour revenir sur les fans, je n'ai pas vu beaucoup de différence, honnêtement, depuis quelques années, dans les tribunes. Mais c'est juste une remarque que je me suis faite pendant la course. Bref, PJ1, un peu dur au début, et puis quand la gomme est... a commencé à s'accumuler sur la trajectoire basse et au final,
oui,
incroyable, mais ça a fonctionné.
C'est ça, hormis chez Elliott qui s'est entêté à l'extérieur.
Bah, il y a eu plusieurs, Harvey qui s'est entêté au début, Hamlin également, Martin Truex également. Mais au final, jusqu'à quoi, aux deux tiers, trois quarts de la course, c'était surtout la trajectoire basse qui avait la priorité. Et puis, on a également vu qu'une trajectoire haute commençait à se gommer et à être efficace. Du coup, on est passé d'une trajectoire depuis quelques années, que ce soit en haut ou que ce soit en bas. Ben, cette fois-ci, on en a eu deux. Et je trouve que ça donne un coup de jeune à Bristol. Je ne sais pas vous, mais... je pense que la recette miracle pour la nouvelle version, la version moderne de Bristol, ce serait deux trajectoires préférentielles.
Bon, on l'a déjà eu hein, au début de la côte, souviens-toi. Je crois que c'est en 2008, l'année où la RCR fait un triplé. On commence déjà à avoir deux trajectoires et ça avait déjà commencé à faire jaser. Et depuis, on a un petit peu gardé cet esprit. Après, est-ce qu'il faut une trajectoire, deux trajectoires à Bristol?
Je pense que deux trajectoires, c'est comme ça que ça doit fonctionner, puisque on n'est plus dans la version old school de Bristol, et vouloir à tout prix une seule trajectoire, donc la trajectoire basse, c'est clairement pas une solution, et on l'a vu ce week-end à Bristol, mais il y a plus de fun avec deux trajectoires.
Oui, puis on le voit, le nombre de tours que ça peut prendre pour compléter à 100% un dépassement, surtout pour la tête, ou en tout cas entre leaders. Et c'est là qu'on voit tout le travail et la dextérité qu'il faut. Que j'ai vraiment trouvé ça aussi intéressant. Je n'ai pas rappel d'avoir eu des courses de Bristol aussi intéressantes les années précédentes, en tout cas du début à la fin.
Effectivement. Alors, on peut peut-être dire un petit mot sur le vainqueur de cette course, messieurs, parce qu'on n'a pas encore parlé. Brad Keselowski, revenu, alors pas de nulle part, mais il a surgi au bon moment dans les tout derniers tours, et il a surtout profité de la connerie de Chase Elliott pour aller cueillir une victoire dans les deux derniers tours de la course.
Bon, on parle de Brad Keselowski ou on parle de Chase Elliott?
Ouais,
il y a pas mal de choses à dire sur les deux.
D'abord le vainqueur. Non
ouais, un petit mot sur Keselowski, mais après tu vas enchaîner sur Chase Elliott, c'est sûr.
Il va enchaîner Chase Elliott.
Oh, on peut faire un petit lot de pour un.
Allez, vas-y.
Eh bien, Keselowski, on ne sait pas d'où il est venu. Enfin, il vient de l'arrière, mais on sait qu'il va à Las Vegas parce que... je pense que lui-même ne s'y attendait pas et je pense qu'il était lui-même surpris d'avoir autant de chance sur les derniers tours. Parce qu'au final, sa victoire, elle se consacre au moment où il décide de rentrer au stand à... C'était combien ? Il y avait quoi ?
Une quarantaine de tours.
Oui, ouais, un peu plus de 40
avec,
tours.
Boyer, c'est... quand il rentre avec la deuxième partie des pilotes dans le tour, donc il était 9e à ce moment-là quand il décide de rentrer au stand, et il ressort 13.
Oui, c'est ça. Ouais.
Genre, dans le top 15, et au final, il bénéficie des drapeaux jaunes de fin de course, et notamment le dernier qui permet de se rapprocher de la tête, de redémarrer en 4e place et de jouer la gagne, clairement, grâce à notre grand ami Chase Elliott.
Lilian, t'as pas encore entendu sur Keselowski et
sa victoire. Keselowski, une nouvelle fois, qui gagne en partie grâce à une super stratégie. Aloïs l'a dit, sa victoire s'est dessinée, pour reprendre ses mots, quand il est rentré lors du dernier drapeau jaune, et c'est clairement là, pour moi, le moment où il fait la différence. J'y croyais absolument pas, ça c'est clair.
Larry McReynolds non plus, et du coup en regardant en arrière, c'est plutôt marrant le commentaire qu'il a fait.
Oui, c'est clair. Et...
il disait, pour ceux qui n'écoutaient pas la Fox, que pour Larry McReynolds, les pilotes qui rentraient au stand au moment où Brad Keselowski le faisait, ce n'était pas un winning move, selon ses termes.
C'est vrai que ça peut paraître compliqué de rentrer à 40 tours de la fin. Tu dois t'insuffler une dizaine de dépassements pour espérer gagner. Tu pars pas forcément avec les avantages.
Après voilà, ça fait partie de la course. Il a tiré parti des drapeaux jaunes ou des petits accrochages qu'il a pu avoir devant lui. Et après il a fait en fin de course, il a fait Moïse quoi. Ça s'est écarté devant lui, puis il a plus qu'à aller chercher le dernier.
Ça s'est écarté devant lui, et c'est vrai que deux fois, on en discutait pendant la course, j'ai bien vu quand même par moment le top 4 se mettre en vrac en même temps.
Ça aurait pu, c'était très très chaud.
Au moment où Denny Hamlin part en spin ?
Oui, ce moment-là, honnêtement, je vois le top 4 dans le mur.
Franchement, j'aurais eu un fou rire qui aurait duré très longtemps.
Oui, oui. Je me doute bien.
Mais au final, les pilotes, donc on parle là de Kyle Busch, Denny Hamlin, Joey Logano et Chase Elliott.
Oui.
Ils se sont cherchés des noises pendant un sacré moment.
C'était pas Jimmy Johnson à la place de Logano à ce moment-là ?
Il y avait deux Gibbs et deux Hendrick.
Pour moi, il y avait deux Gibbs et deux Hendrick.
J'ai un trou de mémoire sur l'action.
Ah, c'était Johnson, Elliott et oui. Hamlin, Busch.
Oui.
Mais en tout cas, les pilotes qui jouaient la gagne n'ont pas hésité à se mettre des coups de portière pendant une grande partie de la course.
Effectivement. Jusqu'à deux tours de la fin, quand Chase Elliott, on est d'accord, Aloïs, fait encore une fois une belle connerie et va sortir, sortir Logano.
Ah, il fait de la grosse merde. Il faut dire ce qui est. Hein, il s'est complètement raté. Encore une fois, on va revenir sur le débat du est-ce que c'est volontaire, est-ce que c'est involontaire. Là, clairement, il a, comme la belle expression dit, il a chié dans la colle. Il voulait mettre la pression et tenter de gagner face à Joey Logano. Il manque complètement l'apex du turn 3. Et au final, il emporte Logano dans le mur et les deux perdent la gagne au final. Et il n'y a pas de discussion. C'est encore une fois une erreur de Chase Elliott.
Lilian.
Moi, je rejoins Louis. C'est un fait de course. Il y a pas. Enfin, pour moi, il n'y a pas à épiloguer. Est-ce qu'il l'a fait exprès ? Est-ce qu'il y aurait dû y avoir bagarre ou que sais-je ? Voilà. Deux pilotes réputés pour être agressifs sur la piste se sont battus pour la gagne. Chase Elliott s'est complètement loupé. Je suis complètement d'accord avec Louis. Il a emporté Logano. Voilà. Que Logano puisse être énervé, c'est complètement légitime. Mais encore une fois, une victoire qui tendait les bras de Chase Elliott. Et puis finalement, c'est pour quelqu'un d'autre. Et ça fait, je crois que la Fox avait donné la stat. Quatrième course de suite où Chase Elliott est en position de gagner à moins de 10 tours de l'arrivée.
Il en a gagné qu'une. 4 fois dans les 5 dernières courses. Ouais. Donc,
Et il en a gagné qu'une, malheureusement.
Effectivement. Mais après, une bagarre à Bristol sans public, les gars, non. Non.
Mais on a senti que Joel Logano en avait gros sur la patate quand même, après la course.
Tout à fait. Bah oui, en même temps...
ils sont à chaud, hein, c'est normal.
Ils sont à chaud et t'as quand même la possibilité d'aller gagner à Bristol. Et t'as rien demandé à personne, tu te fais mettre dehors comme un malpropre. Tu termines 20e, alors ouais, tu termines oui, non, 21e. C'est quand même loin d'être exceptionnel et on peut comprendre l'amertume de Joey Logano après cette course.
Après, je ne sais pas ce que tu en penses, Geoffroy, mais la frustration de Joey Logano est totalement méritée, et notamment sur le fait que Chase Elliott n'assume pas ses erreurs.
Ah oui, bah, en même temps, Chase Elliott, toute proportion gardée, il a un côté Kyle Busch, à parfois venir jouer sa pleureuse, ou un côté Truex, enfin, ou un côté de certains pilotes Gibbs, à venir jouer sa pleureuse, et à aller pleurer dans les jupons de sa mère, en l'occurrence de son chef d'équipe. Mais il y a des fois, c'est quand même lui qui les fait, les conneries, et t'as juste envie de le prendre et de lui foutre des baffes, quoi.
Bah, c'est vrai que la comparaison avec Kyle Busch, j'avais jamais imaginé comme ça, mais au final, les deux se rejoignent pas mal en termes de « je suis trop fier pour admettre mes erreurs ».
Oui, après, voilà, c'est les deux, ça reste des pilotes, et globalement, les pilotes ont quand même du mal à admettre leurs erreurs, sauf quand on leur met réellement sous le nez, et encore, pas tous. Et voilà, quoi, c'est dans leur caractère, c'est dans leur ADN, et c'est aussi ce qui fait le charme des courses. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, on loue la capacité de Chase Elliott à être hyper critique envers ses résultats de fin de course quand il ne gagne pas, qu'il termine dans le top 5 ou dans le top 10 en disant qu'il dit lui-même qu'il a fait de la merde. Par contre, quand il sort du monde, quand il y a des problèmes avec Denny Hamlin, avec Logano, avec Kyle Busch, j'ai quand même l'impression que ça a plus tendance à pleurer qu'à assumer. Mais bon, après, c'était peut-être toute la Hendrick cachée dans la colle, parce qu'on n'en a pas parlé, mais quand on voit Jimmy Johnson, il en fait quand même une énorme sur Stenhouse.
Ah oui, après, on peut lui trouver des excuses. Enfin,
oui,
je sais pas si je suis seul dans le bateau. La
vieillesse, le manque de réflexes, oui, ça on peut trouver, mais.
Je pense surtout que Jimmy Johnson ne voit pas le travers de Kenseth, oui. Et il ne sait pas que Stenhouse est obligé de lever le pied derrière Kenseth.
Tout à fait, ça va tellement vite.
Ça enchaîne, à mon avis, et vu l'angle. Et la vision que Johnson avait, je pense que n'importe qui à la place de Johnson aurait fait l'erreur.
Bah, tout à fait.
Je pense pas que ce soit une erreur de pilotage personnelle de Jimmy Johnson.
Mais ça, en tout cas, s'ensuit ouais, de gros chocs pour les autres derrière, pour certains.
Ça a de lourdes conséquences. Hein. Stenhouse, il en prend de belles. Hein, parce que dans le muret intérieur, ça tape fort. Et après, il se fait prendre l'arrière par le coaster. Double choc pour Stenhouse, hein. Donc
ça met quand même du lourd au tapis. T'as Bowman qui est mis au tapis, t'as Emmerich, Stenhouse qui performe d'habitude, enfin qui performe régulièrement à Bristol.
Non, pas Emmerich, Reddick.
Exact, je confonds régulièrement. Il y a qui également, ouais, Bowman, je l'ai dit. Il y a Kurt Busch qui est partiellement accroché.
Ouais.
Cole Custer, tu l'as dit. Ils sont quasiment, pour la plupart, tous contraints à l'abandon.
Oui, ça a limité les choses. Donc,
Et ce crash résume bien la course très, 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 très difficile d'Alex Bowman, d'ailleurs.
C'était une semaine sans, c'est clair.
Ça termine une course, de toute façon, qui était, alors je ne vais pas dire perdue d'avance, mais quand tu vois tous les problèmes qu'il a eus, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, Alice.
Ah oui, au moment où il a pris sa pénalité pour excès de vitesse dans les stands, on n'a plus vu Alex Bowman de la course. Et puis on l'a vu jusque dans le virage 3, au moment où Ricky Stenhouse s'est transformé en boule de bowling.
Effectivement, si tu veux bien rappeler les problèmes qu'a eu Bowman.
Bowman, ça a commencé très tôt dans la course, parce qu'avant même le premier arrêt au stand, Son rétroviseur s'est partiellement décroché, du coup il pouvait rien voir derrière lui, puisqu'il y avait tellement de vibrations que c'était invisible. Et puis on apprend en conférence, enfin entre guillemets en conférence de presse, en sortie de l'hôpital de Bristol.
Du centre médical,
que sa pédale d'embrayage s'était décrochée pendant la course. Et puis tout ça, ça se termine avant même la mi-course au tapis grâce à son coéquipier Jimmy Johnson.
Il aurait pu demander à c'était Johnson qui avait pas réparé son levier de vitesse en roulant ? Ou c'était Dale Earnhardt Jr.
C'était Johnson, puisque c'était avec la déco Loves et qu'on l'avait appelé Monsieur Bricolage.
Il aurait pu lui demander un petit cours hein, pour apprendre à réparer en roulant quand même.
Mais là, c'est même pas le levier de vitesse. C'était la pédale. Ce serait la pédale. Donc c'est pire. Je pense qu'il a dû bien galérer quand même.
Il n'y a pas trop à rétrograder sauf pour rentrer au stand.
Justement, il disait que c'était surtout compliqué dans les stands et les boîtes en NASCAR sont. T'as pas besoin d'enfoncer la pédale d'embrayage pour passer une vitesse. Donc, au final, pendant la course sur la piste, ça le dérange pas trop. Mais je pense qu'il a surtout galéré pour enclencher une vitesse en sortie des stands.
C'est vrai que ça a été compliqué pour Bowman. Et du coup, bah, la course se termine, on va dire, de manière anonyme au final.
Précipité.
Mais c'est peut-être un mal pour un bien. Il fait 37e. Et voilà, vivement Atlanta pour Bowman, un ovale d'un mile et demi, ça devrait aller et un peu plus correspondre aux performances de sa voiture.
Pas ce qu'on dit chaque semaine pour un pilote Hendrick ?
Si. Mais bon, enfin, Bowman cette année a quand même fait de meilleures perfs sur les ovales type Vegas, type Fontana. À voir après.
En attendant, le dernier bon résultat d'Alex Bowman, c'est sur la reprise à Darlington. Hein. Donc ça commence à dater, en termes de temps, pas énorme.
Et c'est ça, c'est 3 courses.
Ça fait que 2 semaines.
Ça fait que 2 semaines, mais ça fait quand même 4 courses.
Ça fait quand même 4 courses. Autre pilote aussi qui nourrit de la malchance, on va revenir un petit peu du côté de la Penske, c'est Ryan Blaney. Ryan Blaney qui se bat pour la tête de la course avec Brad Keselowski à ce moment-là, qui perd le contrôle de sa voiture. Bon, il arrive à immobiliser la voiture tout en haut de l'oval. Et là, Ty Dillon arrive et boum, plus de voiture.
Ah oui, il a bien raccroché l'avance, c'est clair, malheureusement. Là, on pensait justement que le plus dur était fait. Apparemment, il n'avait pas tapé, pas très fort. Et bon voilà, vu comment le museau de sa voiture était refait par le Dillon Junior,
ouais.
Bah abandon. C'était en voyant l'état de la voiture, il y avait plus de doute.
Et puis je pense qu'on a des avis différents sur la question.
Bah
du côté de l'implication de Ty Dillon.
À chaud, je te dis Ty Dillon a encore fait une connerie parce que
ça
paraît quand même énormément évitable. À froid, tu te dis que un petit peu comme Johnson, ça va tellement vite. Je pense que c'est pas forcément de la faute de Ty Dillon, que la faute elle est plus à aller chercher du côté du spotter qui s'était peut-être endormi.
Oui, parce qu'il y a quand même une petite latence, ça lui laissait le temps de ralentir en principe.
Mais je pense que Ty Dillon était absolument certain que Ryan Blaney allait continuer sa course vers l'intérieur de la piste. Au moment où la voiture de Ryan Blaney remonte sur l'ovale et s'arrête, que Ty Dillon met un coup de volant pour l'éviter.
Ouais.
Je suis quasiment certain qu'il se disait « Bon, il va redescendre, je passe en haut, nickel. » Et puis, moins nickel.
Oui, beaucoup, beaucoup moins nickel. Du coup, les deux abandonnent. On a bien essayé du côté de la German Racing de réparer. Mais il y avait aussi trop de dégâts pour Ty Dillon. Donc, fin de course prématurée. Après, tout juste 200 tours pour Ryan Blaney et 201 tours pour Ty Dillon qui a essayé de repartir, mais ça ne fonctionnait plus vraiment. Alors, messieurs, on a parlé du vainqueur, on a parlé de tous ceux qui ont été impliqués un petit peu de près ou de loin dans des accidents. On peut peut-être parler du top 10 de cette course de Bristol, parce que il y a encore une palanquée de choses à dire. À commencer par le deuxième, qui met fin à une série de deux semaines depuis la reprise, et puis les 6 ou 7 semaines sur iRacing de malchance. C'est Clint Bowyer. C'est Clint Bowyer, quand même.
Ah, Clint Bowyer, pour le coup, il fait partie des désheureux de fin de course. Clairement, il a été en difficulté, quand même, pendant une bonne partie de la course. Il était quand même souvent loin. Et puis, en fin de course, il a bénéficié de cette grande porte ouverte pour aller chercher une deuxième place complètement inattendue. Je pense que lui aussi, il ne l'avait pas vu venir.
Là, il a suivi Brad Keselowski, et que ce soit sur la piste au moment à l'entame du dernier tour, au moment du crash, mais également dans les stands, puisqu'il était sur la même stratégie que Brad Keselowski dans les stands.
Ouais, il était rentré aussi en même temps que lui.
Et comme dirait un grand philosophe français, la roue tourne.
D'accord, ok.
Pour ceux qui n'ont pas la référence, on parle de Franck Ribéry. Ouais.
Donc, on a Brad Keselowski qui est Moïse, et Clint Bowyer qui est un fidèle de Moïse, si je résume un petit peu depuis tout à l'heure. Parce que Clint Bowyer qui suit aveuglément Brad Keselowski, si on dit que Brad Keselowski c'est Moïse parce que la mer elle souffle devant lui, on en est là aussi. Troisième, malgré un accident, malgré presque un autre accident en fin de course, Jimmy Johnson, qui sauve très très bien les meubles, qui sauve la patrie Hendrick.
Il en faut un. C'est tout le temps ça. Il y a des éliminés qui ont dominé. Et puis là, c'est Jimmy Johnson, comme tu dis. Il sauve la maison Hendrick.
Mais c'est pour ça qu'Hendrick a 4 voitures, c'est pour être sûr d'en avoir une dans le top 10 en fin de course.
Ça résume bien cette saison 2020 jusqu'à présent, c'est vrai.
Alvis, tu veux ajouter quelque chose sur Johnson?
Johnson, au final, était relativement discret, plus ou moins discret, parce qu'on l'a quand même vu dans les premières positions une bonne partie de la course. Mais encore une fois, quand il ne fait pas de bêtises qu'il l'empêche d'avoir un bon résultat, il montre qu'il a toujours les capacités d'aller en claquer une. Je pense que ça pourrait arriver sur cette dernière saison en carrière. Enfin, j'y crois, du moins.
Ce serait bien.
Je commence à remarquer, je le remarque de plus en plus, j'ai l'impression que systématiquement, les voitures Hendrick, et je dis bien les voitures Hendrick, sont plutôt réglées pour les longs runs.
Oui.
C'est toujours, peu importe la piste, c'est toujours la même chose. Parce que Johnson, à un moment, j'ai plus le moment de la course en tête, je crois qu'il était en lutte pour la première place avec Kyle Busch. Et il paraissait clairement plus rapide. Mais c'était quand c'était un drapeau vert qui commençait à s'allonger. Mais sur les runs plus courts, systématiquement, ça va être les Penske ou les Gibbs.
C'est ça. Et régulièrement, en fin de relais, tu entends les commentateurs te dire que les voitures de la Hendrick ont pris vie. C'est-à-dire que les voitures de la Hendrick commencent à être compétitives. Et c'est vrai que c'est souvent le cas. Maintenant, quand on regarde un petit peu ce qui se passe depuis l'instauration des segments, on a quand même le sentiment qu'on a moins de drapeaux jaunes débiles. C'est soit des accidents, soit des drapeaux jaunes de fin de segment. Et on a quand même tendance à avoir des runs sous drapeau vert qui s'allongent.
Et ça corrèle avec ce qu'on disait hors antenne, où quand même les pilotes Hendrick gagnent énormément de segments.
Aussi. Mais c'est bien ça le problème. Pour l'instant, c'est qu'ils ne gagnent que des segments. Bowman a gagné la course de Fontana et Elliott a gagné une course à Charlotte. Mais c'est tout. C'est un peu l'inverse de la Penske, qui gagne très peu de segments, mais qui gagne des courses à la fin.
Et c'est ce qu'on retient.
Et c'est ce qu'on retient. On retient que les vainqueurs. Quatrième de la course, Kyle Busch. Clairement, déception.
Je pense que c'est une des plus mauvaises de ses courses à Bristol depuis un sacré bout de temps.
Après, il fait quatrième, il mène 100 tours, mais on l'a vu en lutte pour la gagne, perdu dans les stands, perdre des places dans les stands en fin de course. Et sur les tout derniers tours, il n'a pas été en mesure, il n'a pas pu, se battre pour la victoire finale.
Ah, oui, tu l'as dit, quand on s'appelle Kyle Busch à Bristol, On est habitué à avoir des stats beaucoup plus, je dirais, impressionnantes, beaucoup plus importantes, en tout cas en sa faveur. Là, clairement, pour du Kyle Busch, c'est pas terrible, c'est
Et
clair.
il faut pas
Mais surtout, il
oublier.
a galéré, mais vraiment galéré en début de course.
Mais oui, Kyle Busch, j'ai l'impression qu'il a quand même du mal avec le fait que ses courses, là, depuis la reprise, il n'y ait pas d'essai. Donc, aucune possibilité de réglage. Ça fait partie des pilotes qui ont peut-être un peu plus de mal. Il faut pas oublier non plus que c'est le meilleur pilote Gibbs à l'arrivée. Et que la Gibbs, si je ne dis pas de bêtises, elle a remporté les 6 courses sur short track l'année dernière, entre Richmond, Bristol et Martinsville.
Effectivement,
Bon,
la
on avait
photo
la
sera
stat
affichée
pendant
dans
la
la
course,
course.
ouais.
Donc forcément, ne faire, je mets des guillemets, que quatrième, c'est presque une contre-performance. Mais il y a bien pire que lui à la Gibbs. Je pense à Martin Truex Jr. qui fait 20e. On l'a vu en tout début de course. Et après, il a été mais d'un anonyme complet, j'ai trouvé. Ou alors, j'ai pas vu la même course que vous.
Bah, Truex, il est, on en a déjà parlé de toute manière, hein. Cette saison, c'est un peu en dedans quand même.
Bah, on le
Ça se
sent bien
voit.
moins incisif que les années précédentes. En tout
On le
cas,
voit
ça
beaucoup
se
moins, c'est
voit.
clair.
Ouais, mais là, depuis quelques courses, là, enfin, depuis, on va dire, la seconde de Richmond et puis les deux de Charlotte, ça allait mieux.
Enfin, ça allait mieux, c'était pas clinquant non plus,
Bah,
hein.
c'était pas exceptionnel, mais on sentait une dynamique un peu plus positive. Il y avait eu des top
Entre
10 et des top
Darlington et
5.
Charlotte, il fait quand même 4 top 10, mais aucun top 5. Donc je pense que ça le situe plutôt bien. Sur cette saison, il arrive à performer, mais il est clairement un second, voire un troisième niveau en fonction des courses.
Ouais, il était dans le top 10 en fin de course, mais il arrivait d'être dans le top 5 en course malgré tout, et on le voyait un peu plus présent que sur les 4 premières courses de l'année où il avait été, je trouve, assez discret.
Bah, à l'image, enfin, moi je trouve que c'est un peu l'image de la Gibbs en elle-même, qui est quand même bien moins puissante et aux avant-postes qu'elle ne pouvait l'être l'an dernier ou en 2018.
C'est vrai.
C'est.
Bon.
Alors oui, et on sait que la Hendrick, enfin, et les moteurs Chevrolet, et la nouvelle Chevrolet, on en a déjà parlé, sont bien plus performantes, mais il y a quand même un petit retrait chez Gibbs et les Toyota. Elles sont là, mais c'est voilà, c'est plus aussi clinquant et aussi dominateur que ça pouvait l'être.
C'est sûr. Enfin, cela dit, on dit que la Gibbs est en retrait, elle est moins bonne. C'est quand même la seule écurie a placé deux pilotes dans le top 5 sur cette course, puisque Eric Jones fait cinquième.
Eric Jones avait d'ailleurs bien besoin d'un bon résultat parce que
C'est
cette année
clair.
2020, c'est compliqué, hein.
Oui, on est tout à fait d'accord.
C'est peut-être la course qui va déclencher, quoi. Parce que
À
bon, un
voir.
top 5, voilà, à Bristol, il faut aller le chercher, quoi. C'est à son tour.
Tout à fait.
C'est vrai que sur
À
un
voir
mile et demi, ouais, à
comment.
voir.
Et puis il faut souligner quand même, Eric Jones n'arrive pas sur un coup à la consommation ou une stratégie dans les stands. Il y arrivait à la régulière.
Ouais.
Donc c'est d'autant plus une bonne nouvelle pour un le niveau des voitures de la Gibbs, qu'on sait sont excellentes à Bristol, et surtout sur lui personnellement qui avait besoin de rebondir puisque au classement général, c'est un petit peu rush.
Non, pas du tout. On fera le
Non,
point
il n'est
sur
pas à la
le
rush, il est à la Gibbs, non.
classement. On fera le point sur le classement général juste après. Non, ça va, il est 14e, pour l'instant ça passe, on y reviendra après. Allez, on va terminer le top 10 quand même rapidement. 6e, Austin Dillon, je sais pas si vous voulez dire quelque
Qui
chose.
continue à enchaîner les bons résultats semaine après semaine.
Discret mais efficace.
Voilà, non, mais je suis d'accord. Ça résume bien Austin Dillon, ouais, depuis
Oh,
la reprise.
ouais, et puis ça résume bien la RCR depuis la
Qui
reprise.
revit, clairement, qui revit.
Ouais, donc...
On est habitué ces dernières années à. Voilà, bon, ça restait de la boutade, mais à railler quand même très fortement la RCR. Mais c'est vrai que cette année, c'est. Entre Reddick et Dillon. Voilà, c'est quand même très très solide cette saison.
Il y a peut-être un
Et
électrochoc.
d'ailleurs, vous voulez savoir quand c'était la dernière fois que Austin Dillon a enchaîné deux top 10?
Deux top 10.
Comme là, on a eu deux top 10, 8e à Charlotte sur deuxième course et 6e à Bristol.
2018?
J'aurais dit 18 aussi.
Ouais.
Au moment où il gagne, attends, 2018, c'est quoi? C'est Non, 2018, c'est... Non, 2018, il gagne Daytona 500, puisque c'est 20 ans après la victoire de Dale Earnhardt. Donc...
Qu'est-ce qu'il a fait à Atlanta après?
Eh bien, il a fait 14e.
Donc, non, mais ouais, pour moi, c'est 2018. Après, te dire exactement quand dans la saison, je ne sais plus. Mais ouais, 2018.
Eh ben, c'était à la toute fin de la saison 2018, puisqu'il a fait 10e à Texas, 8e à Phoenix, et il aurait pu enchaîner avec un troisième top 10, puisqu'il finit 11e à Homestead. Donc, c'était il y a quand même un sacré bout de temps.
Effectivement.
Belle stat. C'est-à-dire si, voilà, si c'est à noter, ouais, clairement. Ouais.
Septième Kurt Busch, malgré une voiture un tout petit peu abîmée sur le gros carton, il va bien frotter le mur extérieur, mais finalement ça ne l'a pas empêché de remonter. De toute façon, Kurt Busch, c'est un peu comme son frère, ça fait partie des pilotes qui apprécient cette piste de Bristol et qui vient claquer un bon résultat et qui, lui, pour le coup, sauve la patrie Ganassi.
Mais il peut dire merci au drapeau jaune. Il me semble qu'il a été mis au-delà du tour à un moment, non? Suite à peut-être à ses réparations.
Oui, il était à au moins un tour, c'est certain.
Et il sauve les meubles en fin de course, clairement.
Il revient dans le tour à la fin du deuxième segment.
Après, il faut souligner quand même qu'ils n'étaient pas énormément dans le tour non plus en fin de course. Non.
En fait, dans le tour, en fin de course, ils sont 22. Et après, il n'y a aucun pilote à un tour, il n'y a aucun pilote à deux tours, et il n'y a aucun pilote à trois tours. Le 23e, Chris Buescher, est à quatre tours.
Oui, parce qu'après, oui, il n'y a eu que des Lucky Dogs sur les drapeaux jaunes de fin de course. Quoi. Oui, chaque fois, ça. Ils sont revenus dans le tour comme ils étaient.
Ouais. Donc voilà un petit peu. Kurt Busch, 8e, William Byron. Discret et dans le top 10 à la fin, mais on sent qu'il en manque encore un petit peu pour William Byron. Au moins sur short track, pour pouvoir viser autre chose.
Ah, un peu à l'image de, j'allais dire de Bell, de Jones chez Gibbs, Byron, ça reste le maillon faible chez Hendrick, qui est clairement un ton en dessous des trois autres, je trouve.
En même temps, il est plus jeune et il a moins d'expérience.
C'est vrai.
Donc, ça se tient.
Mais voilà, ça reste, bon, Jimmy Johnson à part, ça reste quand même, ces trois autres, enfin, les trois autres sont beaucoup plus jeunes. Et clairement, bon, voilà, on voit qu'il a... Il y a un déficit d'expérience. Et puis après, bon, est-ce qu'avec le Chad Kanos, ça va peut-être mieux que ça n'allait par le passé? Mais bon, ouais, Byron, je ne sais pas. J'ai du mal.
Ouais.
Ça va mieux, mais ouais, on le voit par moments montrer le bout de son nez pendant la course. Si c'est systématiquement, il y aura une bourde à un moment ou à un autre. Et puis, bah, ça va sauver ce que ça peut à la fin, quoi.
9e, un rookie, messieurs. Encore une fois, des prestations énormes des rookies cette année, comme le disait Aloïs hors antenne. On a des petites pépites. Christopher Bell, 9e. Un coup c'est lui, un coup c'est un autre, mais très belle perf des rookies dans l'ensemble. Et la très belle perf de Christopher Bell, qui aime cette piste de Bristol lui aussi, et qui nous fait un top 10. On aurait presque pu espérer mieux pour Bell.
Et il a montré, il est monté jusqu'à quoi, 3, 4e place en cours de...
Oui, dans le top 5, oui.
Il a pris une pénalité.
Oui, effectivement.
C'est pour ça qu'il finit malheureusement que 10e.
Mais en tout cas, c'est quand même une bonne nouvelle pour l'équipe numéro 95. Mm. On pouvait un peu douter des bonnes perfs puisqu'elles n'arrivaient pas. Et puis là, à Bristol, il montre le pédigré de la Gibbs sous son meilleur jour.
Tout à fait. Gibbs, Levine, mais voilà, c'est, enfin, on le dit, on le répète, c'est la même entité technique. Donc voilà. Et 10e, messieurs, Bubba Wallace, pareil, impliqué dans au moins un accident, mais qui arrive à s'en sortir, qui arrive à remonter et qui nous fait un top 10.
Voilà, ça doit lui faire du bien aussi, hein. Lui qui est quand même souvent dans les mauvais coups, souvent accidenté, pour diverses raisons. Enfin, un résultat décent pour Darrell Wallace, je pense que ça doit faire beaucoup de bien au moral.
Effectivement, sachant que la dernière fois qu'il avait fait une course à Bristol en NASCAR, c'était sur iRacing, il avait perdu un sponsor.
Ça, il peut s'en prendre qu'à lui-même.
C'est vrai. Et messieurs, pour terminer le top 10, la 11e place de Kevin Harvick. Pourquoi je vous dis ça ? Kevin Harvick, c'est la première fois de la saison qu'il ne termine pas dans les 10 premiers d'une course.
Faut un début à tout, hein.
Ouais.
Oui, c'est vrai. Faut un début à tout, mais...
Il nous avait habitués, il y a quelques années, à faire soit premier, soit deuxième. C'était, je crois, que sur fin 2017, début 2018.
Ouais.
Bon, bah, voilà.
Et là, je crois qu'il faut remonter. Il avait même les 4 ou 6 dernières courses de la saison 2019. Il était dans le top 10. Donc, ça faisait une très, très belle série pour Harvick, hein.
Ah, puis il provoque un drapeau jaune à moins de 100, je sais plus, rester quoi, moins de 100 tours, hein, quand il a une crevaison.
Oui.
C'est le drapeau jaune à une quarantaine de tours de l'arrivée, je crois que c'est celui-là.
Non, c'est le tour 434, donc on est à 70 tours. Ouais.
Okay.
Et c'est Matt Kenseth qui en profite et qui est Lucky Dog. Voilà un petit peu, messieurs, pour Bristol, de qui on n'a pas parlé
Di Benedetto.
Quand...
Décevant, malheureusement, pourtant bien placé.
À un moment bien placé, et puis qui a mené pendant 4 tours.
Et puis impliqué dans le, entre guillemets, Big One.
Oui.
Aussi, mais oui, il faisait partie des. Pas des favoris, mais en tout cas des pilotes qu'on attendait, clairement, sur cette course. Hein, il est comme un Stenhouse, qui régulièrement brille aussi à Bristol. Bon, bah voilà, malheureusement, les deux ont été accidentés, course à oublier.
Oui, effectivement. Voilà un petit peu pour ce qu'on pouvait dire sur Bristol, messieurs. On peut peut-être parler quand même rapidement du classement avant de passer sur Atlanta. Donc au classement, malgré sa 11e place, Kevin Harvick reste large leader. Il a 24 points d'avance sur Joey Logano, 45 sur Chase Elliott, 55 sur Brad Keselowski, 81 sur Alex Bowman. Donc tout ça, pas d'inquiétude, ça a déjà gagné cette année. Il n'y a pas de souci. Même le 7e, Denny Hamlin, qui a 94 points, 2 victoires, il n'y a pas de souci. Le 6e, c'est Martin Truex Jr. Donc malgré des résultats parfois décevants, parfois en dedans, il arrive à être 6e du classement général.
On se demande comment il fait.
Ouais, preuve quand même que chez Gibbs, on a des voitures qui sont performantes.
Ah bon, ouais. On ne joue pas avec des tracteurs, c'est sûr. Hein.
Malgré tout, c'est vrai. 8e, Blaney. En fait, et c'est à partir de surtout de Kyle Busch, 9e, que ça commence à devenir un petit peu, entre guillemets, chaud. 9e Kyle Busch, 10e Kurt Busch, 11e Arik Almirola, 12e Clint Bowyer, 13e Matt DiBenedetto, 14e Eric Jones, 15e Jimmy Johnson, 16e Austin Dillon. Donc voilà les pilotes qui seraient qualifiés si le championnat régulier s'arrêtait maintenant. Et on peut inclure dans la lutte 17e William Byron, 18e Tyler Reddick, 19e Chris Buescher, 20e John Hunter Nemechek, 21e Ricky Sano Jr. et 22e Bubba Wallace. Un petit peu histoire de mettre un peu de monde et de se dire que sur un malentendu, sur une victoire, ça pourrait mettre le bazar. On parle de Ryan Newman qui est 26e, donc pour l'instant toujours dans le top 30, mais clairement va falloir une victoire. Et Matt Kenseth pour l'instant n'est que 32e. À une vingtaine de points du top 30. Pareil, Matt Kenseth, il faudra une victoire pour espérer se qualifier en playoff.
On parle de bordel, mais si une victoire vient de Tyler Reddick, de Chris Buescher, de John Hunter Nemechek, de Stenhouse sur un super speedway, par exemple, ou même d'un pilote comme Christopher Bell ou Ryan Newman, il y a quand même pas mal d'options pour, comme on dit dans notre jargon, secouer le cocotier.
C'est, bah, dans notre jargon, dans ton jargon. Hein.
Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est le jargon d'Aloïs.
ne nous implique pas dans tes conneries, s'il te plaît. Mais en tout cas, ce qui est sûr, si c'est une victoire d'un rookie, l'année prochaine, on le veut dans une grosse équipe.
Ah bah, je pense que même sans victoire, 1, 2, si ce n'est 3, pourrait finir dans une grosse équipe.
Genre Christopher Bell chez Gibbs à la place de Jones qui finirait dans la 95.
Par exemple.
Genre et qui est dans la 48, du coup?
Et ben Brad Keselowski, et on met Nemechek dans la 2.
Vendu.
Ah, pas mal, ouais. Il pourrait rester, ouais.
C'est où qu'on signe? Parce que ça a quand même de la gueule.
Ah, ça... Bah, tu prends un bout de papier, tu signes.
Ouais, mais bon, ça n'a pas de valeur légale, malheureusement.
Oh, bah écoute, c'est pas grave, on l'a dit. Nous, on l'a dit, on a la bande, on peut l'envoyer à la Penske si elle le veut. Donc... Voilà, puisque, on le rappelle, Brad Keselowski est dans son année de contrat, il n'a toujours pas prolongé à la team Penske. Il y a quand même eu 2 mois pour avancer le dossier, et pour l'instant, on ne voit aucune amélioration en vue d'une prolongation de contrat pour Brad Keselowski, messieurs.
Ça fait quand même 2 victoires en 9 courses.
J'espère
que ça va faire changer des esprits quelque part.
Ce serait bien. Sans victoire, je crois que Ryan Blaney a déjà été prolongé, si je ne dis pas de bêtises.
Ah, il y en a un qui est plus bankable que l'autre, il faut croire.
Ça doit être ça. Ça doit être ça. Pourtant, il y en a un qui gagne plus de courses que l'autre. Mais c'est pas grave.
Ça aide d'être un fils d'eux, comme on dit.
D'ailleurs, tu parles plus de victoires, mais quand j'ai entendu que c'était la 32e victoire de Keselowski, je me suis posé la question, je me suis dit déjà.
Elles sont où les 31 autres?
La première, elle est connue.
La première est connue, mais je trouve que je ne m'attendais pas à ce qu'il en ait autant. Et au final, ça démontre que Keselowski, c'est pas un peintre, bien loin de là.
Ah bah non, ça ne l'a jamais été. Mais Keselowski commence à avoir un palmarès respectable et respecté.
Bah, tu te dis que Kevin Harvick en a à peine 50.
Oui.
En comparaison de 2001, ouais.
Kevin Harvick a quand même une traversée du désert chez Childress qui a quand même été énorme. C'est presque sa signature à la Stewartas en 2014 qui le fait exploser et devenir un tueur, quoi.
Et puis Harvick, il a quand même vécu la période de Johnson.
Oui.
Johnson ne laissait que des miettes aux autres. Pareil pour Gordon.
Jeff Gordon aussi, à son tout début de carrière, Kevin Harvick.
Ah bah ouais, les 97-98, t'avais Gordon et les autres.
Ouais, enfin, sauf que Harvick, il commence en 2001, quoi.
En 2001.
Ah merde.
Oui, il commence en 2001, c'est connu.
Il commence en 2001 et...
Non, mais je sais, en plus, je l'ai dit.
C'est tout aussi connu que la première victoire de Brad Keselowski.
Et sa première victoire, il bat Gordon sur l'Oval d'Atlanta.
Photo finish à Atlanta, ouais.
Donc voilà. Voilà un petit peu, messieurs. On a fait un point sur le classement. Avant de parler rapidement d'Atlanta, on va faire un « j'aime, j'aime pas ». Lilian, je t'écoute.
J'aurais 2 « j'aime pas ».
Ben vas-y.
Loïs qui s'en sort quand même bien toutes les semaines dans ses pronos.
Ah, moi j'entends des haters là, il n'y a que des haters.
Les pronos, c'est comme la météo, on n'en veut plus.
Ah ouais, si, mais attends. Kin Boyer, 2e à Bristol, merci quoi. Et mon second, j'aime pas. Trop de boulot ces temps-ci et compliqué de regarder les courses en direct.
D'accord. Aloïs, je t'écoute.
Alors, j'ai eu peur à l'instant d'un moment que Lilian me vole mon j'aime pas.
Ah.
Mais bon, j'aime pas, ce sera la coupe de cheveux absolument immonde de Ricky Stenhouse. Il faut en parler parce que c'est pas possible.
Le mulet.
Le mulet avec les côtés rasés et les deux bandes en mode je suis de retour en 2005. Non, merci. Non.
Comment ça, non?
C'est pas... Non. Un mulet, ça peut être bien porté. Mais façon paysan du fin fond du Tennessee, non, merci, quoi.
Écoute, faut bien être paysan quelque part. Hein.
Ah, je pense que c'est pour ça que Danicale s'est barré. Hein.
Je pense qu'elle a vu ça, elle a fait « Ok, ciao !»
Ok, c'est plus mon copain, lui.
C'est pas faux. Mon j'aime, messieurs...
Et du coup, j'ai pas de j'aime, moi?
Ah bah si, pardon, je pensais que t'avais fini. Tu commences à te dériver sur Danica, donc je pensais que t'avais fini. Excuse-moi, vas-y avec ton j'aime.
Mon j'aime, je l'avais indiqué la semaine dernière en off, mais du coup, ça faisait longtemps, mais j'aime le beau temps, j'aime le début de l'été. Ça faisait longtemps, donc il fallait remettre un petit peu au goût du jour les classiques.
Effectivement, pour rebondir un peu sur ce que tu dis, c'est les un peu plus de 150 bornes de vélo que j'ai fait dimanche. C'était bien sympathique, mais le j'aime pas... C'est des passages à niveau, ça devrait être interdit ces trucs-là, on devrait mettre des ponts. Pas grave, on fait des côtes, mais au moins on se tape pas les passages à niveau de merde. Qui...
Ils crèvent après.
Non, même pas, j'ai pas crevé, mais c'est juste insupportable, quoi. Donc voilà, j'aime pas. Allez messieurs, on reprend rapidement le fil de l'émission avec... Ah si, j'avais une info qui sert à rien.
Ah!
Ouais, j'avais une info qui sert à rien, mais oui, j'ai failli
Mon
l'oublier.
Dieu, info capitale.
Eh oui, info capitale. Bah, figurez-vous que samedi soir, aux États-Unis, dimanche matin, très tôt en France, c'est le retour de l'IndyCar. Enfin, c'est le début de la saison
Oh,
d'IndyCar.
je l'avais vu venir, c'est pas
Et bah,
vrai.
figurez-vous qu'on n'a absolument aucune information, pas de liste d'engagés, pas d'horaire. Donc, bah, suivez bien US Racing dans les prochains jours. Vous aurez peut-être des infos, mais pour l'instant, c'est le calme plat. On ne dirait pas que ça reprend.
Donc c'est
D'où
pour ça
l'info
qu'on
ne
n'en a pas
sert à
parlé
rien.
avant de parler de Bristol.
C'est ça.
C'était un choix fait en off.
Tout à fait. Messieurs, rapidement, Atlanta, ce week-end.
Ah,
Atlanta.
enfin un mile et demi intéressant.
Enfin, un mile et demi intéressant. C'est vrai.
Le seul un mile et demi intéressant.
Le seul un mile et demi qui mériterait d'avoir de course.
Oui, ça je suis d'accord.
Non, mais ça, je vais le répéter à chaque fois qu'on bat Atlanta. Il faut deux courses à Atlanta.
Oui, on le sait bien, mais tu comprends que le marché n'est plus ce qu'il était et que vaut mieux aller se faire deux courses dans les champs de maïs du Kansas, tu vois, histoire de retrouver, comment qu'il s'appelle, Ricky Stenhouse Jr. et sa coupe de cheveux merdique.
Putain,
Au
t'as
Kansas,
deux
t'aurais
courses
été
à
boyeur
Michigan.
aussi.
Cette année, t'as trois courses à Charlotte. Bon, certes, tu en as une qui est sur l'Roval, mais il y a combien d'ovales d'un mile et demi ou de 2 miles qui ont deux courses et qui ont une seule course et qui en mériteraient d'avoir deux, hein? L'inverse, je voudrais dire.
Oh, bah dire
Ok,
cette année, c'est la
compris.
proximité
Vous m'avez
géographique.
compris.
Écoute, réfléchis à ce que tu veux dire et tu reviens la semaine prochaine, il n'y a pas de souci.
Bon, allez, ciao, à la semaine prochaine.
Mais oui, on s'est compris. Les horaires de dimanche, parce que finalement, on en prend l'habitude, hein. Tout est le dimanche maintenant, ou sur une journée. On a une course qui est prévue à 15h avec les pilotes qui seront appelés aux voitures à 14h50, c'est précis. Les deux premiers segments de 105 tours chacun et le dernier segment, Lilian, il fera 115 tours.
Et est-ce que pour être tout à fait précis, Geoffroy, est-ce que tu as l'heure du drapeau rouge pour météo?
Ah oui, merci Lilian.
On a 500,5 miles. Alors écoute, c'est pareil, la NASCAR se la joue. IndyCar ne nous a toujours pas communiqué l'heure du drapeau vert. Je suis en train de vérifier. Non.
Ça, c'est un problème.
Ah, le syndrome IndyCar commence à frapper les autres séries. Aïe, aïe, aïe.
C'est terrible. C'est terrible. Si tu veux, pour avoir l'heure du drapeau rouge, il faudrait déjà que j'ai un petit peu l'heure du drapeau vert. Mais sachant que la course est prévue à 15h, on peut légitimement penser à un drapeau vert à 15h16. Donc ce qui
Oui,
ferait
quelque
du
chose comme ça, oui.
21h16 en France. J'ai pas regardé la météo sur Atlanta pour l'instant. Je me laisse, si tu veux, je me laisse un petit peu de répit avant de me dire que ça va encore être la merde et
Que tu vas pas beaucoup
qu'ils
dormir.
vont se prendre des seaux d'eau sur la gueule. Je m'en fous, le lundi, je bosse pas. Donc voilà. Mais non, on se laisse un peu de répit. On va attendre un petit peu et puis on va croiser les doigts en espérant que Atlanta, vu qu'ils l'ont décalé d'année en année pour qu'il fasse un peu plus beau, ben, ce soit le cas. Mais
Faut espérer.
cela dit, en ce moment, c'est un peu la saison des ouragans et des tempêtes tropicales sur la partie est des États-Unis, ce qui ne nous aide pas au niveau de la météo. On l'a bien vu du côté de Darlington et surtout de Charlotte, où ça a quand même été un petit peu un sketch. Lilian, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur Atlanta? Sinon, qu'il faut une seconde course sur cette piste.
Oui, bah. Je pense que chaque année, on répète la même chose, hein, concernant Atlanta et cette piste. Enfin, c'est pas qu'elle est atypique, c'est plutôt son revêtement très très abîmé qui fait qu'elle est très atypique. Voilà, je suis clair, je rejoins Aloïs, hein, de toute façon, je l'ai dit, j'en ai parlé avant lui. Voilà, c'est mon mile et demi favori sur cette saison, clairement, parmi tous ceux qu'on a à dispo au calendrier NASCAR.
C'est vrai.
Voilà, la gestion des pneus, on sait que c'est l'une des clés, que la différence entre les pneus usés et les pneus neufs, oh, elle est de plus d'une seconde, hein, facile.
Oui.
Mon prono, ce sera Kevin Harvick. J'ai décidé de sortir l'artillerie lourde pour essayer d'enfin détrôner Aloïs sur une
Aïe, aïe,
course.
aïe, aïe, aïe. Il est désespéré.
Ah, c'est ça, je grille mes jokers là. Voilà.
Ok, bah très bien. Écoute, on va se donner rendez-vous ce week-end. Donc on a quoi? On a de la X-Fin nickel samedi. Et on a même de la truck le samedi. On a double ration de NASCAR le samedi. On aura, a priori, de l'IndyCar dans la nuit de samedi à dimanche. On sait toujours pas l'heure. Mais dès qu'on a des infos, promis, on vous les donne.
C'est comme pour l'IndyCar, c'est ça hein.
Peut-être qu'on les aura dimanche soir, les infos de l'IndyCar.
On a même cherché sur d'autres sites que le site de l'IndyCar. Hein. Allez, en dehors de leur site média, il n'y a rien.
Il n'y a rien, il n'y a que dalle. Donc,
les seuls horaires qu'on a, c'est 2019, donc on s'en fout.
On s'en fout un petit peu. Voilà, et la Cup dimanche, d'ici là, rendez-vous sur US Racing pour les infos. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Rendez-vous la semaine prochaine pour débriefer. Bonne semaine à tous, bye bye.
Bon courage, à la semaine prochaine.
Bon week-end à tous, à la semaine prochaine.